Europe 1, midi 14h, la France bouge. Raphaël Duchemin.
Soyez les bienvenus dans La France bouge. Si vous nous rejoignez à l'instant, ici, vous le savez, nous avons à cœur de vous montrer l'actualité sous un autre prisme. Alors oui, nous vous parlons, c'est vrai, de la crise sanitaire, mais aussi des effets à long terme qu'elle peut engendrer. Et vous allez voir qu'avec nos nouvelles manières de consommer, plus en proximité, nous sommes peut-être en train de planter durablement les graines du Made in France. Ce phénomène, il s'est accentué depuis le début de la pandémie. Et c'est ce que nous allons nous attacher à vous montrer aujourd'hui avec Elisabeth Assayag. Bonjour Elisabeth.
Bonjour Raphaël, bonjour à toutes et à tous.
On est ravis évidemment de parler du Made in France, hein, parce que vous savez qu'on y tient dans la France bouge à ce Made in France. On va aussi parler relocalisation. Et c'est vrai qu'avec la crise sanitaire qui s'est abattue sur notre pays, nous avons vu des pans entiers de notre activité cesser de tourner. Alors pour que la reprise qui doit se faire puisse ne pas laisser trop de TPE et de PME sur le carreau, eh bien, des initiatives sont en train de voir le jour, comme celle menée par Tudigo. Bonjour Alexandre Lain.
Bonjour Raphaël.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le premier site de crowdfunding au service des TPE et PME françaises et c'est vous qui l'avez cofondé et qui le dirigez. Avec la certification Origine France Garantie, vous avez très vite compris en fait que le tissu économique allait forcément y laisser des plumes. Vous vous êtes donc lancé dans 1, 2, 3, soutenons nos entreprises. Qu'est-ce que c'est au juste ?
Alors, soutenons nos entreprises, c'est une initiative effectivement que Tudigo a lancée avec Origine France Garantie, avec le label Origine France Garantie, pour mettre en lumière ces entreprises qui produisent et vendent en France. Et parce qu'on parle aujourd'hui beaucoup de relocalisation, mais il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui il y a déjà des entreprises qui ont bien commencé, hein, et qu'on peut déjà soutenir en achetant leurs produits et également sur soutenons-nos-entreprises.fr. En leur prêtant à un taux solidaire de 5%.
Oui, l'idée, c'était finalement de demander à tout un chacun de verser des sommes pour faire un petit bas de laine pour les entreprises qui sont en ce moment françaises, qui travaillent ici et qui sont en difficulté.
Tout à fait. L'idée c'est ça. C'est l'idée que soutenir une entreprise française, mais encore plus une entreprise locale qui produit localement, qui commercialise ses produits ici, c'est soutenir notre économie, c'est soutenir toute une filière, c'est soutenir des savoir-faire. C'est également soutenir l'idée d'un monde qui consomme, qui est plus respectueux de l'environnement. Il faut savoir qu'aujourd'hui, une statistique que je disais hier du cabinet Utopie, basée sur des données INSEE, montre qu'il y a 6700 kilomètres en moyenne entre le lieu de production et le lieu de consommation des produits qu'on consomme en France et que les importations représentent la moitié des émissions de CO2 d'un pays comme la France. Donc avec cette initiative, vraiment, c'est de mettre en avant des entreprises, bien sûr dans le domaine alimentaire, mais ça on est tous bien au courant, mais également dans le non alimentaire, d'entreprises comme Tournabois par exemple, qui réalisent des ustensiles de cuisine en Bretagne et qui peuvent remplacer par exemple les ustensiles de cuisine IKEA que vous avez dans votre cuisine et qui sont faits en Chine. Voilà, donc c'est vraiment cette idée générale, c'est bien sûr de soutenir ces entreprises, mais de mettre en lumière tout un secteur, toute une filière qui produit en France, qui produit localement.
Et vous proposez, je crois, sur le site, trois options. J'achète, je soutiens les commerçants qui produisent en précommandant mes produits, mais je peux aussi faire une sorte de don ou alors un prêt. Hein, il y a vraiment ces trois possibilités-là.
Voilà, c'est exactement ça. C'est à la fois en tant que particulier, hein, en tant que consommateur, je peux précommander, voire commander, parce qu'on peut. La plupart des entreprises livrent leurs produits dès maintenant, où on peut aller les récupérer sur place. Mais je peux également prêter avec une rémunération de ce prêt qui est supérieure au livret habituel, et également donner à un fonds de solidarité, fonds qui est d'ailleurs abondé par des entreprises. On reçoit depuis le lancement des propositions de grosses entreprises qui soutiennent
les plus petites.
Voilà. Et les fonds collectés également.
Ouais, on est en train de parler du Made in France. Elisabeth, on s'en est aperçu que ce Made in France, il avait de plus en plus d'importance finalement dans nos vies. Hein.
Oui, hein, et c'est une tendance qui s'est affirmée et qui va continuer à s'accentuer. Hein. Il suffit rien que de voir, on fait un petit tour en arrière, je ne sais pas si vous vous souvenez, du salon Made in France qui a eu lieu en janvier, on y était, nous, la France bouge. Oui. 570 exposants étaient au rendez-vous, alors qu'ils étaient à peine 80 en 2012 lors de la première édition. On l'a vu, il y a de plus en plus de marques, notamment dans le textile, et on va en parler du textile là, pendant cette heure, qui surfent sur cette tendance, mais c'est même pas une tendance maintenant, c'est un mode de vie, c'est une façon de vivre. Hein, on a le slip français, la marque de Jean 1083, plein d'entreprises qui n'y arrivaient pas il y a encore quelques années, comme Armor Luxe ou Saint-James. Et aujourd'hui, ça marche, leurs ventes progressent chaque année. Ces mêmes entreprises qui se sont mobilisées, qui n'ont pas attendu que la crise passe, qui se sont mobilisées pendant la crise pour fabriquer des masques, pour que les personnes travaillent tous les jours dans leur atelier et qu'elles puissent apporter leur contribution pendant cette crise, parce que le fait en France, c'est pas seulement vendeur, ce sont des emplois, c'est de la qualité, le consommateur en demande, et ça va durer avec la crise sanitaire que nous vivons et après la crise.
Oui, c'est vrai, ça va durer. En tout cas, on l'espère et on fait tout pour que ça dure. Alors, vous restez avec nous, Alexandre Lain, parce que vous allez voir que les idées, nous n'en manquons pas, surtout quand il s'agit de sauver des emplois et des filières tout entières. Bonjour Nathalie Blanc.
Bonjour Raphaël.
Merci d'être avec nous. Vous êtes créatrice de lunettes 100% françaises. Votre marque porte votre nom. Mais si vous êtes avec nous aujourd'hui, c'est aussi pour évoquer ce manifeste que vous avez lancé en faveur du savoir-faire français, justement. Racontez-moi comment elle est née, cette idée de manifeste.
Alors, du savoir-faire français, du savoir-refaire français, parce qu'en fait, l'idée, moi, je dessine des lunettes et mon cheval de bataille depuis des années, c'est de faire en France, ce qui est une bataille compliquée quand les remboursements mutuels et sécu pour les lunettes ne proposent que du produit chinois. Donc il a fallu être plus fort, se battre. Moi, quand j'ai commencé il y a 20 ans dans l'optique, il y avait 50 usines dans les vallées du Jura, 200 usines dans les vallées du Jura.
Oui.
Aujourd'hui, il en reste 9. Donc c'est pas possible de se dire que le savoir-faire, on est reconnu dans le monde entier comme étant les plus beaux fabricants de lunettes. Des étrangers viennent fabriquer dans ces pauvres 9 usines qui restent en France. Il faut absolument défendre. Moi, depuis que je travaille, je vois des usines tous les ans qui vendent leurs outillages en Chine et voir ces machines partir en Chine. Je me dis, c'est pas possible. C'est pas possible.
Oui, 90% des lunettes vendues en France, les montures en tout cas, sont fabriquées en Chine. Or, effectivement, quand on voit les chiffres d'il y a 70 ans, on se demande pourquoi on n'a pas continué à maintenir cette filière.
Mais d'abord, parce que les remboursements, autant les verriers ont été très forts avec des syndicats très forts, des lobbyings très forts, et ont imposé des prix qui sont tout à fait honnêtes sur les remboursements, autant ces usines françaises, ces travailleurs, ces gens qui avaient l'âme artisanale n'ont pas su se battre sur les remboursements. Et qu'est-ce qui s'est passé? Des wagons de lunettes sont arrivés en Chine, donc de la consommation immédiate. Hein, ça, au bout de 15 jours, votre lunette est cassée, alors vous avez mis dessus des verres à 600 euros. Alors qu'en France, il y a un SAV, votre lunette, vous l'avez 2 ans, elle est garantie.
Donc ça veut dire que l'excellence est toujours là, il suffit de la relancer, Nathalie Blanc, si je vous suis bien.
Ah mais il suffit de la relancer, il faut surtout déjà...
Alors comment on fait
envie. Déjà, que l'État impose des remboursements qui font qu'on puisse acheter une lunette française. Aujourd'hui, à 100 euros, c'est clair, on n'achètera pas une lunette française. Donc... Le remboursement aujourd'hui que l'État propose, il ne permet pas aux consommateurs de s'acheter une lunette française. Il faut que l'État, avec les mutuelles qui, quand même, les assurances, ont de l'argent, réduisent au fur et à mesure leur montant de remboursement aux clients, sans que vous le sachiez. Hein. Si vous regardez vos contrats mutuels, vous pourrez vous rendre compte qu'entre l'année dernière et cette année, ils ont diminué vos remboursements lunettes, vous ne le savez même pas. Donc vous continuez à cotiser plus cher, mais vous êtes moins bien remboursé, sans le savoir, et ils imposent des fabrications chinoises. C'est pas possible aujourd'hui.
Alors l'excellence est toujours là, il faut relancer la filière. Vous, dans le manifeste, combien est-ce que vous avez réussi à réunir de signatures justement pour ce savoir-faire et refaire en France?
Alors, on l'a lancé il y a 10 jours maintenant, on a plus de 2000 signatures, dont Pierre Hermé, dont Christophe Michalak, dont Smith Solachite, dont des personnalités comme Laurent Delahousse qui a signé, Jean-Louis Borloo qui a signé, plein de marques françaises, Carambar, Le Jadis, etc. Des gens qui font en France qui savent faire, qui se battent.
Oui, et qui ont la notoriété pour faire connaître à l'extérieur ce savoir-faire français aussi.
Mais il est apprécié à l'extérieur. C'est vrai que les gens aiment les produits français, sont très sensibles à ça. Aujourd'hui, je vais aux États-Unis, mes distributeurs aux États-Unis ne me demandent que ça, de prouver. Ils veulent plus de produits chinois aux États-Unis. Ils veulent du produit français. Voilà. Il faut communiquer sur le produit français. Il faut défendre ses filières. Il faut absolument que l'acheteur aussi soit concerné par cet achat qui va être un achat peut-être un peu plus cher au départ, parce que fabriqué en France, on est des héros. Quand on voit les normes, les charges, tout ce qu'on paye, il faut les marges qui sont bien évidemment 10 fois plus faibles. Il faut être vraiment mobilisé, avoir envie de le faire. Maintenant, il faut que l'État, puisqu'ils le disent, soit concerné par le fait de nous aider et d'aider l'entreprise française.
Alors, c'est
en
parti
mettant
pour,
des dates,
hein.
Je sais pas.
On le voit clairement sur cette filière-là. Elisabeth, ce qui est vrai pour la filière des lunettes et ce savoir-faire français, c'est vrai aussi pour une relocalisation de tout ce qui concerne le médicament.
Oui, parce que là aussi, 80% de la production des médicaments aujourd'hui, ça se passe en Chine et en Inde. C'est une tendance qui a débuté dans les années 90. Et là, quand on a vu au début de la crise les usines chinoises à l'arrêt, on a vu là, ça a été une évidence, hein, on pouvait pas nous le cacher, on pouvait pas se dire mais non, mais oui, on a vu cette dépendance liée à la Chine notamment, et ça crée donc cette dépendance, une pression sur nos stocks de médicaments. Aujourd'hui, avec une demande en très forte hausse des pénuries, on a eu peur de pénuries pendant, et c'est encore le cas, hein, je parle au passé, mais c'est encore le cas, les hôpitaux font face comme ils le peuvent, mais on est donc dans l'évidence par rapport aux médicaments, hein. Il faut relocaliser, et énormément de régions là, sont en train de travailler là-dessus, et des régions, mais aussi des entreprises et des laboratoires.
Merci Alexandre Lin de Tudigo, merci Nathalie Blanc pour ce manifeste, hein, deux outils qui sont utiles effectivement pour défendre les savoir-faire français. On reste ensemble sur Europe 1, 13h17.
Europe 1.
Et vous allez voir que le confinement a montré l'utilité de produire à côté de chez soi. Alors va-t-on après lancer un vrai mouvement global de relocalisation? Certains y réfléchissent et d'autres sont même déjà prêts. À tout de suite.
La France bouge. Raphaël Duchemin.
13h19 sur Europe 1, l'épisode des masques a mis en évidence un besoin de continuer à produire, hein, sur le territoire. Mais en avons-nous les moyens? Pouvons-nous relancer quelques filières? Et si oui, lesquelles? C'est une question à laquelle va s'attaquer évidemment le gouvernement, mais il n'est pas seul à réfléchir et à agir. Bonjour Jean Rottner.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur Europe 1, président de la région Grand Est. On vous entend évidemment beaucoup, hein, depuis le début de cette épidémie. Vous avez annoncé, vous, le mois dernier, un acte de relocalisation pour toutes les entreprises qui souhaitent rapatrier une partie de leur chaîne d'approvisionnement en région, mais aussi en France ou en Europe, plutôt qu'en Asie. Qu'est-ce qui vous a décidé ?
Je crois que c'était absolument nécessaire. On s'en rend bien compte aujourd'hui par rapport à cette relocalisation qui devient un peu le terme économique à la mode en ce moment. C'est de se poser la question d'abord en France, dans notre pays, qu'est-ce qui est stratégique? On sait que le numérique est stratégique, la sécurité et la défense, et on se rend compte au cours de cette crise que la santé l'est aussi, et qu'il y a peut-être une réflexion sur l'industrie de la santé dans notre pays ou en Europe. Et où cherche-t-on finalement la plus grande souveraineté? C'est une des questions que nous nous posons en région. Ensuite, qu'est-ce qui est relocalisable dans la durée? C'est ça qui compte. Le consommateur, oui, aujourd'hui, il a envie de circuits courts, il a envie de connaître comment c'est fait du départ jusqu'à l'arrivée, et il n'a plus envie que son costard fasse deux fois le tour de la Terre avant d'être revendu chez son tailleur. Et enfin, il y a, et c'est une grande découverte aussi au cours de cette crise, finalement une forme de sourcing régional. Les entreprises découvrent que ce n'est plus la peine d'aller de l'autre côté de la planète pour trouver un sous-traitant. Parfois, il est à côté de chez eux. Alors, c'est parfois de la qualité supplémentaire, un coût supplémentaire, mais c'est un échange de peu de coûts pour plus de sécurité et de qualité. Et finalement,
ça dépend aussi
de
ce qu'on entend par coût, parce que si on prend par exemple l'économie de la planète et pour les émissions carbone, bah là pour le coup, la balance penche dans le sens de la localisation.
Et bien sûr, donc ça va justement vers cette agilité, vers cette nécessité de s'adapter, vers cette demande aujourd'hui, et une pression sociale existe dans la durabilité, dans le coût du transport et dans un transport plus vertueux. Et on le découvre vraiment avec la fabrication des masques, regardez-le. Ouais. L'agilité, la transformation de nos chaînes de production a été absolument exceptionnelle à partir du moment où ils avaient avant déjà muté vers cette industrie du futur. Nous avons, nous, une deuxième jambe extrêmement solide en termes d'économie, c'est la bioéconomie, celle qui est issue finalement de notre agriculture, de matériaux biosourcés, qui peut être le fruit aussi aujourd'hui d'une réflexion autour de l'industrie de la santé, par exemple. En fait, le 21e siècle, pour moi, le 21e siècle, si vous voulez, ce sera le siècle des chocs externes. On vient de s'en prendre un et il faut un maximum de flexibilité. C'est ça, finalement, la relocalisation.
Vous dites, Jean Rottner, on peut, nous, aujourd'hui, clairement, d'ici cet été, accompagner entre 50 et 100 entreprises qui veulent revenir ou qui veulent se réimplanter autrement.
Vous avez
déjà des demandes sur la table ?
On a des demandes, des réflexions. On va, d'ici la moitié du mois de juin, mener une réflexion qu'on appelle un business act régional. Grosso modo, on va poser un acte fort économique avec les acteurs du monde économique, artisanal, avec des acteurs économiques qui nous permettent de réfléchir et de nous dire réorientons nos politiques publiques vers ce qui peut être effectivement relocalisable, à forte valeur ajoutée, avec là aussi de l'emploi non délocalisable. Je pense qu'il faut aller vers cela. Il ne faut pas lutter absolument contre la mondialisation. Vous savez, la mondialisation, elle est là, on en profite. Elle vient de se prendre quand même un bon coup parce que des chaînes de valeur ont carrément sauté. Et nous n'avons pas les doublons en région, nous n'avons pas les doublons en Europe. Et il faut de toute urgence arriver à le recréer.
Alors justement, on est en région Grand Est, manifestement la volonté est la même un petit peu partout sur le territoire, puisque Elisabeth, la région Nouvelle-Aquitaine anticipe déjà, elle, la relocalisation des médicaments.
Oui, la région a lancé un groupe de travail avec des entreprises, des scientifiques pour produire en Nouvelle-Aquitaine les principes actifs de médicaments sur lesquels la Chine et l'Inde ont la main mise. Ces principes actifs, ce sont les substances qui donnent l'effet thérapeutique et qui sont donc fabriquées en dehors de l'Europe, alors que la proportion était de 20% il y a 30 ans. Donc c'est dans cet état d'esprit, qu'Alain Rousset, le président de la région Nouvelle-Aquitaine, a décidé de créer un groupe de travail pour relocaliser les principes actifs de médicaments avec des industriels de premier plan comme Solvay, Arkema, Sanofi ou Ipsa, tous implantés sur le territoire de la région Nouvelle-Aquitaine.
Et puis je crois que c'est pareil en Normandie, c'est ça qui est fou, c'est que
ouais.
C'est
ça
en train
un petit
de faire
effet de domino là. Hein.
Ouais.
Ouais. La Normandie compte localiser des productions industrielles aussi dans la perspective du futur contrat de plan État-Région. Là c'est Hervé Morin qui a annoncé à la fin du mois d'avril à Val-de-Reuil son intention de muscler cette industrie normande à l'occasion de la visite de l'entreprise Val-de-Farm du groupe Fareva. Et cette région, elle va repenser sa stratégie dans la mesure où elle est la première région industrielle française avec 19% de ses emplois qui proviennent de l'industrie, et l'industrie pharmaceutique va être en tête de ce plan pour redynamiser donc cette industrie en Normandie.
Jean Rottner, vous restez avec nous, je voudrais qu'on accueille ensemble Jean-François Maire qui est en ligne également et qui est délégué général du SNES, le syndicat de la sous-traitance électronique, parce que relocaliser, c'est aussi relocaliser des filières. Bonjour Jean-François Maire.
Oui, bonjour.
Merci d'être avec nous.
La sous-traitance électronique, c'est une industrie qui souffre depuis une trentaine d'années principalement des phénomènes de délocalisation, avec des grandes entreprises françaises qui ont suivi des stratégies de faiblesse, comme on dit, c'est-à-dire qu'on a laissé les pays asiatiques fabriquer.
Oui, 80% de nos circuits viennent de Chine aujourd'hui.
Voilà, donc moi-même j'ai participé pendant 25 ans à la production de téléphones dans l'est de la France. Et bien sûr, tout ça a disparu pour deux raisons. Un, effectivement, les Chinois ont fortement investi, ils ont acquis des connaissances dans la production, ils ont un marché énorme, et les produits en même temps se sont standardisés. Il ne faut pas oublier que la digitalisation permet de fabriquer des plateformes qui sont standards et qui sont exportables mondialement pour des produits, qu'ils soient américains... Ça, c'était hier.
Comment est-ce qu'on fait pour écrire demain, justement? Parce que vous êtes en train de travailler avec d'autres syndicats du secteur pour voir comment on fait pour relocaliser. Ça peut se passer sur quoi? Sur les batteries, sur des câbles?
Je l'ai entendu tout à l'heure. On évoquait un phénomène un ressenti de besoin de produits régionaux, de produits locaux, de raccourcir les circuits. Donc ce phénomène, en fait, nous, on le ressent dans l'électronique depuis quelques années déjà, avec des clients qui viennent nous proposer la fabrication de produits en disant ben, le Made in France, ça fait du sens, on a des clients qui veulent du Made in France. Aujourd'hui même, un certain nombre de clients nous proposent des produits absolument estampillés Made in France pour être vendus en Chine. Parce que les Chinois reconnaissent le savoir-faire français, l'innovation et les bonnes idées des Français. Notre souci, c'est un petit peu la configuration des entreprises en France. La sous-traitance, c'est évidemment quelques gros, à peine une dizaine d'entreprises qui font plusieurs sites, quelques milliers d'emplois.
Mais donc que les PME qui ont le savoir-faire ne soient plus dépendantes des grands groupes, hein, c'est un peu ça l'idée.
Des grands groupes français qui se sont focalisés sur quelques filières extrêmement stratégiques comme l'automobile, l'avionique, le militaire, la défense, etc. Il y a en dessous de ça tout un marché d'électronique.
Vous avez un exemple ?
J'ai des exemples. Par exemple, ce qui apparaît aujourd'hui avec les problèmes de Covid, par exemple, aujourd'hui, l'automatisation des ascenseurs. Vous avez tous les jours des gens qui nous appellent en demandant « Est-ce que vous pourriez programmer nos ascenseurs pour qu'ils fonctionnent sans appuyer sur les boutons ?» Donc, qui réagissent à la voix ou qui travaillent avec des badges à distance. On a la sécurité alimentaire, le suivi des climatisations. On nous pose
et
beaucoup
ça, on sait le faire, Jean-François Maire.
Et ça, on le sait le faire, parce que en tout cas, on saurait le faire dans des délais beaucoup plus courts que d'interroger des grands comptes chinois, malais ou indonésiens. Et donc il faut absolument recentrer l'électronique sur nos besoins. Ces marchés existent. On peut reconfigurer notre industrie.
Ouais, vous êtes en train d'y travailler avec le gouvernement pour essayer de faire émerger des projets viables, effectivement, et locaux. Merci à tous les deux, Jean Rottner, Jean-François Maire, d'avoir été avec nous. La France bouge continue, 13h29.
Europe 1.
Le chef de l'État lui-même avait parlé, souvenez-vous, en mars d'alimentation. Déléguer est une folie, a dit Emmanuel Macron. Message reçu 5 sur 5 par les acteurs du consommer local. À tout de suite. 13h31 sur Europe 1. Vous voulez sûrement continuer à trouver votre pot de beurre de cacahuète fabriqué aux États-Unis dans les rayons des supermarchés. Ça peut se comprendre, mais pourquoi aller acheter des tomates qui viendraient de l'autre bout de la planète quand on peut acheter des produits français? C'est tout l'enjeu de ce qui se passe en ce moment. Bonjour Frédéric Ponce.
Bonjour Antoine.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le coprésident de HOPS, H-O-P-S. Vous avez fondé l'application Le Drive Local et vous vous lancez avec une start-up aixoise, une solution à destination de tous les producteurs et commerçants locaux. Vous dites, nous on s'est transporté, on est opérateur postal privé, les Français eux veulent consommer local et les agriculteurs sont touchés de plein fouet. Du coup, on n'a qu'à se mettre tous ensemble et offrir des solutions.
Exactement. Et c'est vrai que cette solution est venue de façon assez empirique, c'est-à-dire c'est une rencontre d'abord entre une start-up aixoise, on l'a dit tout à l'heure, Get Bigger, et un groupe de plusieurs centaines de personnes qui se sont retrouvées autour d'un besoin clair qui est on veut consommer local, mais c'est pas si pratique que ça. Et donc du coup, on a créé le premier service de e-commerce de proximité en drive et en livraison à domicile.
Alors, votre ambition, elle est quand même intéressante. 1 million de commandes par mois, c'est ça, auprès de 10 000 commerçants. C'est ce que vous envisagez de faire d'ici le mois de décembre. Comment est-ce que vous allez vous y prendre? On est convaincus aujourd'hui, nous, Français, qu'il faut acheter en proximité?
Alors, en fait, c'est assez intéressant ce qui s'est passé récemment avec le confinement, mais je pense que ça va durer après le confinement. Cette volonté d'essayer de manger mieux, de soutenir le commerce local. On a fait une étude, nous, récemment, qui montre que 91% des Français ont envie d'acheter en proximité, aiment leurs commerçants locaux et veulent pour ça des solutions plus pratiques pour le faire. Donc, fort de ça, on s'est dit, on va lancer une plateforme très simple, gratuite, et c'est, je pense, le point majeur, gratuite pour les commerçants, gratuite pour les consommateurs s'ils vont chercher leurs courses après l'avoir fait sur la plateforme chez les commerçants locaux et payante si effectivement on les livre le soir à domicile. Le principe est relativement simple. Vous allez sur le drive local de votre ville, vous êtes géolocalisé, on va vous trouver et voilà, on va vous proposer tous les commerçants du coin. Donc le boulanger, vous achetez votre pain, éventuellement deux gâteaux, puis vous allez acheter des clémentines chez le primeur d'à côté, et puis deux steaks hachés chez le boucher. Vous payez en une fois, en un clic, et là, le commerçant reçoit la commande, la prépare, et vous avez deux options possibles. Soit vous venez la chercher le soir et rien n'est payant pour personne, pas si ce n'est la marchandise, bien sûr, mais aucun service supplémentaire, ni pour le commerçant, ni pour le consommateur. Soit vous êtes pressé le soir et vous allez rentrer vite pour faire les devoirs avec les enfants, et là, vous choisissez un créneau horaire, et pour 5,90 euros maximum, on vous livre le soir à la maison vos courses. Mmh. Voilà, voilà le projet très très simple.
Qu'est-ce qui vous différencie finalement de toutes les plateformes qu'on connaît déjà et qui existent déjà? C'est justement que vous arrivez à fédérer un peu partout sur le territoire?
Bah, à partir du moment où déjà on propose de façon gratuite aux commerçants, sans frais d'abonnement, cette plateforme. Donc ça c'est un premier élément très différenciant. Deuxième élément, notre rêve en fait c'est d'être le bon coin du commerçant local. C'est-à-dire que vous mettez votre annonce gratuite sur le bon coin, là vous pouvez mettre votre offre gratuite sur le drive local. Donc ça c'est le premier élément. Deuxième élément, nous on a un maillage du territoire avec Adrexo et le groupe Ops qui nous permet dans toutes les villes de France de pouvoir mettre à disposition un livreur et donc pour ça de développer l'emploi local avec des postes en CDI et on y tient particulièrement pour pouvoir effectivement accompagner ce mouvement. Et enfin, ce qui nous distingue aussi des autres, c'est qu'on le fait entre la techno d'une start-up, l'agilité, la vitesse d'une start-up et la puissance du premier opérateur postal privé, comme vous l'avez dit. Donc le meilleur des deux mondes, de la tech et de l'industriel.
Alors vous restez avec nous, je voudrais qu'on parte faire un tour en Corse, où cette fois le consommer local veut là aussi être remis à l'honneur, consommer et produire local. Bonjour Jean-Félix Aquavive.
Bonjour, bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes député de Haute-Corse, président du comité massif de la Corse. Vous ambitionnez, vous, en ce moment, hein, de lancer deux projets qui étaient déjà dans les cartons, si j'ose dire, mais que vous avez accéléré. Le premier, réimplanter de jeunes agriculteurs en urgence sur le territoire pour ne plus dépendre, hein, finalement, en matière agroalimentaire, de ce qui arrive par bateau.
Bien, tout simplement, le prisme de la saisonnalité touristique du fort pic estival a fait que la Corse, malheureusement, était très fortement impactée par des importations massives, y compris de matières agricoles. Et cette crise, la crise du Covid, évidemment, comme dans d'autres endroits, mais avec la prégnance de l'insularité, met en exergue le fait d'aller beaucoup plus vite, qu'il faut aller beaucoup plus vite sur le circuit court, évidemment, nous n'avons tant rien, mais de manière beaucoup plus accélérée en termes de démarche collective. C'est-à-dire que nous sommes en train de réaliser un groupement de 40 ou 50 communes, on est déjà presque une cinquantaine de communes, capables de mobiliser dans un temps rapide à peu près 600 à 800 hectares, qui seraient fléchés sur de la production de première nécessité qui manque en production endogène. Donc sur du maraîchage et sur de la farine, pour qu'on puisse d'ores et déjà impulser la politique de l'offre et anticiper sur la baisse de pouvoir d'achat liée à cette crise.
Vous allez lancer les premières expérimentations là dans les jours qui viennent, c'est-à-dire que certaines communes ont dit « Ok, on donne un morceau de terrain à un agriculteur ou à un jeune agriculteur qui veut s'installer ?»
Tout à fait. Mais la crise fait accélérer, je dirais, la maturité de l'enjeu. Hein. C'est-à-dire qu'il y a une maturité de l'enjeu qui fait qu'aujourd'hui, chacun a compris que produire en circuit court, c'est un enjeu de production et d'employabilité, certes, et de revivification du secteur agricole, mais c'est aussi un enjeu de sécurité alimentaire, évidemment, et sociale, puisque il y a aussi derrière l'enjeu de maîtriser les prix dans le circuit court, puisqu'on anticipe ce qui sera une crise durable, malheureusement, au sens économique et social, puisque la Corse sera, comme d'autres territoires, frappée de plein fouet, mais comme nous avons un secteur, une économie corse très hyper spécialisée dans le tourisme, la chute économique va être très profonde et très rapide, puisque tous les secteurs dépendent de l'hyper spécialisation touristique. Or, sans saison touristique, ce sera le cas cette année, et certainement pour l'année prochaine, il y aura une saison en demi-teinte, il y aura une chute forte. Donc la question, y compris sociale, ressort à travers cette initiative. Et évidemment, donc, les 6 à 800 hectares feront l'objet d'un appel public pour que d'autres viennent se joindre à nous. Et déjà, dans une mise en œuvre en termes d'aménagement, avec l'aide du comité de massif de Corse, l'Office développement agricole, en termes d'aménagement, ça veut dire évidemment d'installation oui, clé en main, clôture, irrigation, débroussaillage, pour qu'on puisse, avec les lycées agricoles et avec les jeunes agriculteurs, pouvoir anticiper avec conventionnement sur des installations rapides.
Et oui, parce que la Corse était un grand jardin il y a quelques années de cela, on l'a peut-être oublié. En parallèle, Jean-Félix Aquaviva, vous dites on va lancer aussi une monnaie locale pour développer justement ces circuits courts. C'est quoi l'idée derrière ?
Bien, l'idée, c'est que nous sommes en contrainte du fait, évidemment, la Corse c'est une île, donc logistiquement, la logique de l'export, je pense aux viticulteurs qui risquent fortement d'être impactés à deux titres, l'absence de saison touristique et l'absence de possibilité d'exportation, puisque quelque part, tout le monde va jouer un peu le protectionnisme local, hein, dans les bassins de vie, qui pour certains sont plusieurs millions d'habitants. Nous avons un marché local de 340 000 habitants. Donc ce marché local, pour le stimuler en termes d'actes d'achat endogènes, l'idée c'est de créer une monnaie locale qui permette de multiplier le réflexe d'achat en circuit court de la population corse, évidemment, et avec des ristournes et des réfactions sur les producteurs, sur les produits réalisés, mais aussi sur les commerces de proximité, et de généraliser cette monnaie locale à l'échelle de la Corse. Alors avec un volet
digital. Ce qui est possible depuis la création, effectivement, de tout ce qui est économie sociale et solidaire. Je crois qu'Elisabeth Assaïg, vous aviez une question.
Oui, je m'adresse à la fois à Frédéric Ponce et à vous, Jean-Félix Aquaviva. Là, on est dans une situation où on le voit, hein, avec les pages Facebook où on peut acheter, où un primeur peut se mettre en ligne, les plateformes en ligne, les WhatsApp, moncommerçantchezmoi.fr, épicerie, il y en a plein. Vous pensez-vous que toute cette tendance-là qui est en train de s'installer parce que le confinement est là, parce qu'on doit faire face à une crise, est-ce que tout ça va durer? Est-ce que vous avez le sentiment parmi vos clients que c'est pas juste une tendance, que c'est quelque chose qui va perdurer et que finalement vous êtes en train de bâtir peut-être une nouvelle économie?
Alors, si je peux permettre de rajouter un élément, j'ai parlé de commerce local, mais bien sûr notre plateforme Le Drive Local accueille aussi les producteurs locaux. On a lancé d'ailleurs cette initiative déjà à Aix depuis un mois. Il y a des producteurs de fromage, de saucissons, de bière locale, etc.
Vous travaillez avec la commune de Cassis aussi, je crois.
Ouais, exactement. On vient de lancer sur Cassis effectivement le même service, avec l'idée effectivement que lorsque vous viendrez en vacances à Cassis, vous n'occuperez plus de faire vos courses, on va vous livrer chez vous et vous profiterez pleinement de vos vacances. Donc ça c'est un élément important, je voulais le dire, c'est aussi pour les producteurs locaux et donc pour pouvoir livrer. Pour revenir à votre question, je pense qu'il y a deux tendances majeures qui se sont dessinées pendant cette crise. C'est on ne travaillera plus pareil et on ne consommera plus pareil. C'est une vraie conviction forte, on le sent bien aujourd'hui. Nous, encore une fois, on a fait une étude qui montre que 90% des gens ont envie de consommer local, adorent leurs commerçants et leurs producteurs locaux. Et donc, cette tendance, je pense, est lourde. On va limiter les déplacements, on va manger plus sain. Cet effet locavore, en tout cas, patriote, enfin, c'est un peu le thème d'ailleurs de votre émission. Hein.
Le Made in France, la relocalisation, et vous êtes effectivement de beaux exemples de ce qu'on est capable de faire aujourd'hui. On se donne des nouvelles, évidemment, parce qu'on a très envie de savoir ce que vont devenir ces initiatives. Merci d'avoir été avec nous. Il est 13h42, la France bouge continue. Europe 1. Et vous allez voir qu'il y a aussi une filière qui est devenue finalement l'exemple à suivre, c'est celle du textile, pour repartir demain, on l'espère, de plus belle. À tout de suite.
Europe 1, la France bouge. Raphaël Duchemin.
13h44. Il existait déjà avant la crise sanitaire un mouvement du fer en France qui soufflait sur l'industrie textile. Mais aujourd'hui, tout un secteur se remet en ordre de bataille pour relancer l'outil industriel et le savoir-faire qui est évidemment toujours là. Bonjour Marc Pradal.
Bonjour Raphaël.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le président de l'UFIM et coordinateur de l'initiative Savoir-faire Ensemble. L'idée derrière cette initiative, c'est de montrer qu'effectivement, cette filière luxe et mode, qui fait la fierté de la France, elle peut aujourd'hui, comme elle l'a fait pour produire des masques et des blouses, se remettre en ordre de marche pour préparer justement l'après et continuer à exister ensemble.
Alors tout à fait, hein, mais c'est parti d'initiatives finalement locales, d'entreprise et on a été au centre du comité stratégique de filière Modelux là pour percevoir cette volonté commune et nous étions déjà très très organisés. Donc ça a été en fait des circonstances qui ont fait que aujourd'hui on a su en 4 semaines un peu plus réunir 1050 entreprises françaises autour de dans la filière textile habillement et pour produire 4 millions de masques tous les jours.
Oui, pour fabriquer des produits que vous n'aviez pas l'habitude de fabriquer. Ça montre effectivement l'agilité du secteur. Ça veut dire que c'est quelque chose qui est finalement le point de départ. Comment est-ce qu'on se dit, on ne savait pas faire, on a montré qu'on pouvait. Donc comment est-ce qu'on tire le fil, si j'ose dire, pour construire la suite?
Alors, quand on veut, on peut. Hein. Donc, c'est une volonté. Les entreprises sont agiles, de toute façon, pour être toujours performantes. Et les nôtres, dans notre secteur, avaient souffert de 30 années de délocalisation, donc avaient trouvé d'autres chemins, d'autres moyens, et avaient un savoir-faire qui existait. Donc, c'est une question d'agilité. Ce sont des entreprises, des TPE, qui ont su réfléchir et très rapidement s'organiser pour pouvoir mettre au point donc des modèles. Et puis, avec les instances nationales et des experts techniques aussi, très rapidement, en l'espace de 3 semaines pratiquement, mettre au point des guides pour organiser d'une manière technique et avec aussi des autorités sanitaires des masques filtrants efficaces pour la sécurité de nos concitoyens.
Mais ça veut dire, Mafadal, que si je vous suis bien, si on est capable de le faire pour les masques, on peut le faire demain pour d'autres choses. On peut véritablement complètement relancer l'outil industriel qui était existant il y a pas encore si longtemps que ça. On a d'ailleurs vu des milliers de Français se jeter dans les supermarchés pour aller acheter des modèles de machine à coudre. Voilà, je ne trouvais plus le mot.
Ah, oui, alors ça
ça veut dire qu'on sait faire.
Alors ça m'a redonné le sourire, moi personnellement, parce que effectivement on a vu des personnes apprendre à d'autres à coudre, et ça c'est une excellente chose. Alors j'espère que l'an prochain ça sera toujours Top Chef, mais ça sera aussi Top Couture à la télé. Donc avec ces initiatives, mais ça montre que notre métier a dans ses gènes, son ADN, une culture mode très ancré, et en fait très ancré dans les villages, dans les régions, et on a un maillage extraordinaire en France, et on a toujours d'ailleurs des écoles qui existent dans les régions.
Alors vous restez avec nous, Elisabeth. Il y a des usines effectivement qui sont en train de renaître, notamment du côté des Côtes d'Armor.
Oui, l'usine de masques de Plaintel dans les Côtes d'Armor. Cette usine, elle avait fermé en 2018. Elle avait vendu la plupart de ses machines. C'est une entreprise qui avait été fondée en 2009. À la base, c'est une société de fabrication de chapeaux. Et elle avait répondu à l'appel de la ministre de l'époque en 2009, la ministre de la Santé, Roselyne Bachelot, quand elle avait commandé, souvenez-vous, des millions de masques pour lutter contre la grippe aviaire. La capacité de production est alors montée à 200 millions de pièces par an. Et ensuite, après la chute vertigineuse des commandes, puisqu'on en a pu recommander, l'usine a fermé en septembre. Là, face à la pénurie, l'État et les collectivités se sont tournées vers elle, vers l'usine de Plaintel, pour y relancer la production. Et donc la demande là est énorme. Et d'ailleurs, le président de la République a appelé à une relocalisation de la production. Donc on est peut-être en train d'assister à la renaissance de certaines usines et donc de certaines entreprises.
Et c'est vrai que pour relancer ce mouvement, il y a pas mal d'exemples. Hein, ceux qui ont su relancer les savoir-faire, c'est le cas, je pense, au groupe Velcorex. Bonjour Pierre Schmitt.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes en Alsace et vous avez, vous, relancé la fabrication de masques en lin pour l'entreprise Emmanuel Lang. C'est aussi la possibilité, et ça on l'oublie peut-être un peu, de relancer en amont toutes les filières, parce que vous travaillez avec du lin en Normandie. Ça signifie que finalement, on va aussi, quand on relance une usine, on va redonner du travail avant à ceux qui produisent.
c'est tellement évident que je m'étonne encore qu'on ait perdu ce réflexe. Ça fait des années qu'on a perdu le sens des filières industrielles qu'on a connues pendant les 30 Glorieuses, donc qui a fait la fortune de la France. On les a détricotées et puis maintenant il faut les retricoter. Et je pense qu'on a totalement oublié la richesse des filières et la richesse des territoires. Ce qu'on est en train de redécouvrir aujourd'hui, c'est de voir effectivement, comme le disaient déjà vos interlocuteurs, c'est la diversité et la richesse de nos territoires de proximité. La crise du Covid a permis de mettre en évidence cette richesse parce que je pense qu'on a tous pris l'habitude de temps en temps de regarder d'abord à l'étranger et au moins cher. Et ce réflexe, c'est un réflexe suicidaire. Et si aujourd'hui cette dynamique rentre dans une dynamique vertueuse, je crois que beaucoup d'entreprises sont en train de redécouvrir cette richesse des territoires qu'on a un peu oublié ces derniers temps.
Oui, votre production apporte un gros coup de pouce hein, à la filature de lin. Vous avez la possibilité de remettre justement en marche toute la chaîne de production. On est aujourd'hui, selon vous, Pierre Schmitt, en capacité de tout faire ici en France ?
Alors écoutez, en capacité de tout faire, je pense qu'il faut être prudent. Mais je crois qu'aujourd'hui, si on mobilise tous les savoir-faire et si les gens prennent de nouveau l'habitude de travailler ensemble, on a perdu de vue que si on délocalise, vous ne travaillez pas ensemble. Vous donnez des ordres, mais le travail et l'innovation se fait dans la proximité. Il y avait un article dans les Échos il y a quelque temps qui disait on ne peut innover que dans la proximité et près des consommateurs. Et je crois que c'est totalement vrai de pouvoir réagir en fonction des goûts des consommateurs et en fonction des usines qui sont dans la proximité. On ne peut pas innover, on ne peut pas tirer vers le haut le produit si on délocalise. J'ai l'habitude de dire qu'en délocalisant, on tire vers le bas. En relocalisant, on tire vers le haut.
Mais c'est dommage.
Que ça.
Elisabeth,
c'est dommage d'attendre maintenant pour voir ce sursaut. Même si on l'a vu, il y a des prémices. Hein. Ça fait plusieurs années qu'on dit qu'il faut relocaliser. Mais là, on a l'impression qu'il y a une espèce de prise de conscience globale, générale.
Vous savez très bien que c'est qu'en cas de crise que les gens sont prêts au changement. Ça, c'est une vérité éternelle. Et donc, il faut profiter de ce cas de crise pour remettre en cause tout notre modèle économique. Tout le monde le dit. Je pense que la filière du lin, que vous connaissez un petit peu, c'est le modèle des filatures qui ont disparu depuis 20 ans. Résultat, on importe tout, on importe les produits filés avec la matière première française.
Alors qu'on est le premier producteur
mondial de lin. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir que la technologie de filature de lin n'a pas bougé depuis 20 ans. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en Chine ou en Europe de l'Est, on produit le lin exactement de la même manière qu'il y en a tant. C'est la démonstration de ce que je viens de dire avant. C'est qu'en délocalisant, on simplifie, on banalise, on standardise, on tire vers le bas. Et en relocalisant, on a les ateliers, la proximité, on a la filière et là, on tire vers le haut.
Et on sait faire, hein, vous l'avez dit tout à l'heure. On a perdu l'habitude, mais on sait tricoter. Donc, il n'y a plus qu'à s'y remettre. Merci beaucoup, Pierre Schmitt, d'avoir été avec nous. Merci aussi à tous les invités hein, d'avoir participé à cette France Bouge. Elisabeth, nous, on se retrouve demain. Nous parlerons tourisme. Et oui, à quelles vacances nous préparons-nous ?
Ça, c'est la grande question.
Vaste question. À demain, Elisabeth.
À demain.
Europe 1.
Vous restez avec nous jusqu'à 14h. Roland Pérez va nous rejoindre pour répondre à vos questions. A tout de suite.
Europe 1, la France bouge. Raphaël Duchemin.
3921 et Twitter, hashtag Radio Ouvert. Tous les jours, il répond à vos questions. C'est l'avocat d'Europe 1. Bonjour Roland Pérez.
Hello Raphaël.
Nous avons évidemment, comme chaque jour, des questions pour vous, Roland, à commencer par celle d'Aline qui travaille dans un magasin de vêtements. Elle doit reprendre le 11 mai, mais elle dit la boutique est plus petite que les 4 mètres carrés et je ne vais pas pouvoir respecter les distances entre le client et moi. Est-ce que je peux refuser de venir travailler ?
Quel casse-tête pour l'employeur, quel casse-tête pour la salariée, parce que même si elle reste seule, évidemment, dans la boutique pour l'ouvrir et pour s'en occuper, elle va se retrouver face aux clients, puisqu'on le sait que dans les établissements ouverts au public, cette règle doit être également respectée pour qu'il n'y ait pas de contact à plus d'un mètre et dans l'espace des 4 mètres carrés autorisés entre le salarié et éventuellement le client. Donc non, elle ne pourra pas refuser en revanche de venir travailler. Ce que doit faire l'employeur, puisqu'il n'a pas le choix, et c'est prévu dans le protocole national de déconfinement à destination des entreprises, dans ce cas-là, il va falloir que l'employeur lui fournisse un masque, le masque grand public, qui est le complément des gestes barrières. Alors il ne se substitue pas, mais quand on ne peut pas faire autrement, quand c'est impossible compte tenu de la configuration de l'entreprise, dans ce cas-là, il devient obligatoire. Il est recommandé dans les entreprises, mais là, il devient obligatoire. Et c'est à l'employeur d'alors de fournir ce fameux masque, le masque qui va être le FFP1. Vous savez, c'est les masques alternatifs dont vous avez parlé aujourd'hui, à usage non sanitaire, qui sont fabriqués en tissu, qui sont réutilisables, lavables. Et donc, c'est ce que devra faire l'employeur.
Alors, puisqu'on parle de masques, justement, Daniel se demande si son employeur est obligé de lui fournir gratuitement les masques, à la fois pour les transports en commun et pour travailler, ou est-ce qu'il doit lui-même s'en procurer, et comment ne pas se faire arnaquer dans ces cas-là?
Et oui, c'est ça. Alors, a priori, je l'ai dit, si les gestes barrières dans l'entreprise peuvent être respectés avec tout ce qui est prévu dans le protocole national de déconfinement, et notamment cette règle des 4 mètres carrés, le flux des uns et des autres avec un sens de la circulation pour éviter que les uns et les autres se côtoient à plus de 4 mètres carrés ou à plus d'un mètre en tout cas, si tout cela est possible, le masque n'est pas obligatoirement fourni par l'employeur, il n'est pas obligatoire. En revanche, dans les autres cas où ce n'est pas possible, comme on l'a vu pour Aline, oui, là, le masque est obligatoire, et pour ne pas se faire avoir. La DGCCRF a indiqué que le prix normal serait de 20 à 30 centimes par utilisation. Donc le masque normalement lavable, aux conditions d'ailleurs indiquées obligatoirement par le fabricant. Si par exemple il est réutilisable 30 fois, eh bien le prix sera 30 fois à 30 centimes l'utilisation. Ça fera 9 euros maximum. Et attention, je rappelle que le non-port du masque, par exemple dans les gares ou dans les transports de la RATP, pourrait être sanctionné d'une amende de 135 euros.
Oui, vous faites bien de le préciser. Merci Roland. Deux nouvelles questions évidemment demain, juste avant 14h. Ne bougez pas, vous êtes sur Europe 1 dans un instant. C'est Christophe Ondelatte.